Bonjour, bonsoir plutôt à toutes et à tous. Donc je suis au nom de la FMSH, dont je suis le vice-président, et donc c'est à ce titre que je parle là. Je parlerai un tout petit peu autrement dans un instant. Et donc à ce titre, je suis vraiment très heureux d'accueillir Anne-Marie Moulin pour recevoir le prix Charles et Monique Morazé. Alors je suis très heureux au nom de la FMSH qui a choisi cette année Anne-Marie Moulin comme lauréate de ce prix. Alors je suis aussi, je dirais, en tant qu'ami et collègue, et donc je voudrais m'adresser à Anne-Marie de ce point de vue-là, hein, de ce point de vue, et qui n'est pas indépendant évidemment de l'autre, mais enfin malgré tout c'est un mot plutôt plus amical, plus moins officiel en quelque sorte. Et donc simplement je te connais Anne-Marie je crois depuis 20 ans, hein, on s'est connu sur les j'allais dire sur les bancs, non pas sur les bancs, mais nous siégions ensemble à la commission de l'INSERM. Tu te souviens de cette fameuse commission 10 où il y avait épidémiologie, sciences du comportement et sciences sociales. Voilà. Et donc, on a siégé ensemble pendant, je crois que c'était 4 ans ou 5 ans. Donc, nous voyons...
Ça nous a tous marqués.
Voilà, hein, voilà. Et donc, donc, on a sympathisé, je crois, à l'époque. Alors, on avait bien sûr des intérêts communs. Mais je ne savais pas encore, quand on s'est connus, que tu allais, te rapprocher de moi directement, puisque tu allais devenir bientôt la directrice des sciences sociales et de la santé de mon établissement.
Oui, un petit saut,
mais à l'époque, tu ne savais pas, et moi non plus. Voilà. Donc, toi, je te fais une rétrospective. Et donc, alors simplement, mis à part le fait de se connaître, de s'être croisé pas mal de fois depuis ces 20 ans et autour souvent de sujets communs, je voudrais simplement dire que tu es quand même une personne assez rare, assez exceptionnelle et qu'on ne peut vis-à-vis de toi que exercer son admiration, et je te dis ça en toute simplicité, tout simplement parce que, en effet, tu conjugues trois domaines, hein, qui sont quand même qui se rencontrent pas souvent, c'est-à-dire à la fois il y a en toi la philosophe, hein, tu es agrégé de philosophie, tu es médecin, puis tu n'es pas médecin, je dirais il y a différentes sortes de médecins, hein. Tu as fait l'internat, je crois, hein. Tu t'es spécialisé maladies infectieuses, immunologie. Tropical. En plus, c'est ça qui était notre point commun. Je me souviens, on échangeait tropicalement quand on était à la commission ensemble à l'INSERM. Et donc, je me souviens, on parlait d'entomologie médicale un petit peu. Et donc, mais aussi quelque chose de tout à fait là qui se rajoute en quelque sorte, puisque tu es arabisante et que tu t'es intéressée de près au monde islamo-musulman. Et donc arabo-musulman.
Tu viens d'inventer un mot.
Mais c'est un lapsus dû au contexte. Tu sais, y a des mots qui vous rentrent et vous ne savez pas comment vous en libérer. Donc voilà, donc c'est quand même une chose, une conjugaison, une conjonction de domaines assez rares. Et donc, véritablement, il était, je dirais, tout à fait normal que tu reçoives ce prix. Donc, tu sais, on va procéder ainsi. Moi, j'ai fini ma petite introduction. Donc, ma collègue Martha Craveri, qui est directrice du pôle international de la FMSH, va dire un mot autour des deux noms, Charles et Monique Morazé, pour préciser qui étaient ces personnes qui ont beaucoup compté à la fois dans l'histoire de la FMSH, mais aussi dans l'histoire tout court, de l'histoire des sciences, pour Charles en tout cas. Et puis après quoi, nous lirons le texte qu'avait prévu de dire Roland Vaste, qui ne peut pas être là puisqu'il est, il est assez mal fichu. Et donc, il a écrit un texte et ça sera lu par vous-même, je crois. Voilà. Et ensuite, nous t'écouterons puisque tu dois faire une petite intervention. Et tu dois la faire dans des délais relativement courts. Parce que tu avais prévu, je crois, une heure hein, au départ.
J'ai pu entendre.
Voilà. Et normalement, c'est une demi-heure. Donc, je crois qu'on t'a prévenu.
Hein,
qu'on t'a prévenu que c'était une demi-heure. Donc, si tu dépassais de 5 minutes, on ne t'en voudra pas, évidemment pas. Et donc nous aurons... Et je crois que c'est la vérité en médecine. Hein, je crois que c'est ça. Voilà. Très bien. Donc, Martha, si tu veux bien.
Donc, nous sommes à la 4e édition de ce prix Monique et Charles Morazé. C'est un des 5 prix de la Fondation. Les autres prix récompensent plutôt des jeunes chercheurs, tandis que ce prix... Non, des jeunes dans le sens qu'ils viennent de passer le doctorat ou des thèses, pas dans le sens... Donc un travail plus de terrain, les premiers travaux de terrain, tandis que le prix Charles et Monique Morazé récompense... une œuvre entière, disons, et surtout sur des thématiques qui étaient chères aux deux Morazés, celles des sciences et société et éducation et société. Et donc je me permets juste 2 mots sur qui était le couple Morazé et pour ceux qui ne sont pas familiers de leurs activités et du rôle qu'ils ont eu non seulement à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, mais pour l'essor des sciences humaines et sociales en France. Donc Monique Morazé a œuvré tout le long de sa vie pour une meilleure compréhension de l'Inde indépendante et a été en fait la fondatrice et un des piliers de l'association France-Union indienne. À la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, elle a aidé, soutenu et mis en place le programme Inde qui a permis d'inviter des dizaines, disons près des centaines de chercheurs indiens pendant des longues années. Charles Morazé était historien de renom et était un des responsables de la revue des Annales. Et il a contribué de façon très significative à l'essor des sciences humaines et sociales et de l'enseignement supérieur dans des grandes institutions comme Sciences Po, l'École des hautes études, l'EPHE et l'École polytechnique. Et il a été avec Fernand Braudel un des fondateurs de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Et donc aujourd'hui, je passerai maintenant la parole à ma collègue pour qu'elle puisse lire le texte de Roland Vaste. Je voudrais, puisqu'on est à la 4e édition, remercier cette fois vraiment Olga Spillard, que depuis des années, elle prend soin de ce prix avec fermeté, parce que parfois il faut être ferme avec les chercheurs, mais avec une grâce et beaucoup de soin. Donc vraiment merci Olga, et je vous passe le micro.
Donc je vais prêter ma voix à Roland qui regrette bien de ne pas pouvoir être là. Aussi c'est avec plaisir que je vais lire ce texte parce que je connais Anne-Marie depuis 25 ans au moins, alors que j'étais étudiante. Elle a été d'abord mon enseignante au DEA du RESEIS, l'histoire des sciences, et puis ensuite elle m'a suivie longtemps, beaucoup. Donc je vais prêter ma voix pour ce texte qui est très personnel. Et je le lis aussi pour l'amitié que j'ai pour Roland. Anne-Marie Moulin, connue de par le monde entier, en France certes, mais en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre et partout dans le monde arabe, du Maghreb au Machrek, ses terrains d'élection. Mais discrète, Anne-Marie Moulin, peu soucieuse de se mettre en avant. Sa reconnaissance, elle la doit d'abord à un socle de connaissances qu'elle ne cesse d'enrichir. Ce socle a été vite et solidement acquis. Elle entre à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, on disait de Sèvres, souvenir d'une école normale à sexe séparé. Peu d'années ensuite, elle est reçue première à l'agrégation de philosophie. Elle a soutenu auparavant un diplôme d'études supérieures avec Georges Canguilhem sur un thème alors très nouveau aux confins de l'éthique et de la médecine, celui des comas dépassés, et fera sa thèse avec François Dagonier. Mais elle ne s'en contente pas. Comme son maître, elle a entrepris dès l'école des études de médecine, et persévérante, elle les mène jusqu'au bout. Elle est interne des hôpitaux, mais elle estime devoir compléter encore ses connaissances en biologie, et le fait à l'université, puis à l'Institut Pasteur, en se spécialisant en immunologie et en parasitologie. Au-delà de tant de savoirs certifiés, comme les écoliers de l'âge d'or de l'islam, elle fait le tour des hauts lieux du savoir et de sa création. Elle sera fellow de l'Institut d'études avancées de Berlin, chercheur associé à Harvard puis au MIT, invité de John Hopkins University. Là commence son vaste carnet d'adresses. C'est aussi une lectrice acharnée. À travers ses lectures infinies, elle n'acquiert pas seulement de l'érudition, mais un savoir critique aux mille facettes qui sert son œuvre. On l'aura deviné, Anne-Marie aime aussi les écarts. Quand elle entame ses études de médecine, c'est au grand dam de la direction de l'école normale qui craint à tort pour sa vocation de philosophe. Mais en voici d'autres. L'Institut Pasteur d'abord, dont elle sera d'ailleurs plus tard l'historienne. Puis des missions en Afrique, dont des séjours répétés en Tunisie. Puis de nombreux séjours au Yémen, où elle monte un laboratoire de parasitologie. Ensuite, une formation renforcée en histoire des sciences et son entrée au CNRS, mais elle s'échappe dans une unité INSERM. Et des détachements comme à l'IRD, où elle dirige le département de recherche santé, sciences sociales, et plus tard au CEDEJ, centre de recherche du ministère des Affaires étrangères au Caire. Anne-Marie est essentiellement une personne libre. Il ne faut pas chercher à l'enfermer. Elle s'évadera inéluctablement. Mais elle est fidèle et exacte quand elle adhère à un projet et donne sa parole. Elle fait les choses à son rythme, quand bon lui semble, mais toujours en temps et en heure pour les grands rendez-vous. Roland Vaste te rappelle des souvenirs mémorables quand il a vraiment coopéré avec elle dans un projet un peu fou, un panorama des sciences hors d'Occident au XXe siècle, organisé à et avec l'UNESCO pour le cinquantenaire de l'Orstom, devenu depuis l'IRD. Elle avait la périlleuse charge d'organiser une session phare, 5 jours durant, sur médecine et santé. Elle pouvait être très en retard aux réunions de coordination prévues chaque mois, mais y venait toujours pour faire le point et souvent dénouer de sérieux imbroglios. Au besoin, elle ouvrait son grand carnet d'adresses, ce qu'elle ne fait qu'à bon escient. Et c'est elle qui a obtenu la venue de certains conférenciers stars, il en fallait, comme Jonathan Mann, alors Monsieur Sida mondial et très en vue à l'OMS, disparu un peu plus tard, en pleine gloire, dans un accident d'avion. Enfin, Anne-Marie ne se veut pas pure théoricienne. Elle est certes capable, mais elle ne veut parler et n'écrit que si elle connaît concrètement la pratique correspondante. C'est ainsi qu'elle a toujours maintenu, à toutes ses étapes, une consultation médicale, non pas lucrative, mais discrète, le plus souvent en hôpital et dans le cadre d'une ONG offrant des soins aux demandeurs d'asile. Elle enseigne partout où elle se retrouve. Roland Vaste l'a d'abord rencontrée lors de séminaires d'histoire des sciences qu'entretenait le réseau Réseis à Jussieu. Mais elle a aussi enseigné aux universités de Genève, du Caire et d'Alexandrie. Elle continue, je crois. Elle fait de nombreuses conférences dans les lieux les plus inattendus, pas seulement académiques, mais au besoin dans des mosquées. Elle encadre des étudiants et particulièrement des thèses très attendues et très élaborées. Pourtant, l'affaire qui la retient, c'est la recherche. Et elle trouve. Sa bibliographie est impressionnante, mais bien à son image. Elle n'aime pas se cantonner à des livres. Elle en a écrit plusieurs, pourtant, dont le superbe « L'islam au péril des femmes » avec Pierre Chuvin. Elle préfère les ouvrages courts, les articles ou les chapitres dans des livres collectifs qu'elle-même a souvent inspirés ou dirige, « Islam et révolution médicale ». Elle ne vise pas systématiquement les revues prestigieuses, mais disperse volontiers ses interventions là où elles animeront un milieu scientifique, où elles seront exactement lues ou bien là où elles seront utiles à une jeune entreprise qu'elle soutient de son amitié. L'œuvre est foisonnante. Elle est au carrefour de plusieurs disciplines, la philosophie, la médecine pour certains articles, l'éthique de plus en plus, en lien avec la valeur associée à la pratique et bien sûr l'histoire. Histoire des sciences, histoire de la médecine en particulier. On ne peut la réduire à un petit nombre de thèmes, mais quelques-uns sont récurrents et il faut les mentionner ainsi. Il faut les mentionner. Un féminisme paisible. Pas de Jeanne d'Arc ici, mais des figures attachantes et méconnues, aventureuses ou marquantes là où on ne les attend pas. L'impossible mission de Dorothée Chélier, médecin en Algérie. Les instituts Pasteur, formant un réseau mondial et qui font l'objet de travaux récurrents. Comment en est-on venu là ? D'ailleurs, et d'actualité, un 33e institut vient d'être labellisé à Conakry. L'islam, saisi au moyen de l'anthropologie, à travers sa médecine, ses sociétés et dans ses pratiques historiques, est présente. L'œuvre est peinte à petites touches qui font mouche, vivacité, paradoxe, lieux inattendus et détails inédits. Tout concourt à déconcerter, à contrer les stéréotypes et les idées reçues, à étayer de nouvelles thèses tout en réaffirmant des valeurs profondément vécues. Car Anne-Marie Moulin est généreuse. Elle s'engage constamment. Elle le fait dans la communauté scientifique. Nous avons mentionné son activité dans l'organisation de colloques, la publication d'ouvrages collectifs, l'animation de départements de recherche. Elle est, avec d'autres, à l'origine de plusieurs revues très structurantes dans le domaine santé et société, et pas seulement en France. Mais elle s'engage aussi dans la vie de tous les jours, longtemps au travers de sa consultation médicale, toujours dans le dialogue avec l'islam, de plus en plus en mettant en avant la question, les questions d'éthique, les préoccupations morales, l'humanisme. Roland Vast conclut, tout en ne sachant pas si elle en sera satisfaite, Anne-Marie le fait parfois penser à Diderot, union de l'intellect et du sentiment, rencontre de l'âme sensible et de la connaissance rationnelle, ambition encyclopédique et convocation de la pratique. Anne-Marie Moulin a le génie de tout cela, entre autres.
Ben, je ne peux dire que merci Roland et merci Mina. Du même coup, je crois que j'économiserai les remerciements parce que l'émotion me gagnerait. Je suis supposée faire un exposé sérieux et exigeant à la hauteur de votre amitié. Je vais donc parler de la vérité en médecine, à travers son histoire. Alors, je pense que l'histoire de la médecine, c'est d'abord pour moi remonter dans le temps et retrouver des expériences familières à travers les textes des anciens. Je pense qu'avant de poser la question, qui est une question savante, de la vérité en médecine, je voudrais vous évoquer la vérité anthropologique de la médecine. Comment les médecins approchaient-ils ce qu'ils considéraient en leur temps comme la vérité ? Nous avons des tas de journaux de bord. Par exemple, sous l'Antiquité, on a les textes de l'école hippocratique et les épidémiques, les livres sur les épidémiques. Et on voit bien là le médecin aborder une île de la Méditerranée et essayer de se repérer dans la pathologie en écoutant ce qui s'y passe, les maladies régnantes, les sautes de temps, la pluie, le vent, l'eau, c'est très important, elle manque souvent dans les îles de la Méditerranée. Et à partir de là, ils peuvent commencer à se faire une idée de leur pratique, commencer à esquisser des diagnostics et à traiter avec les moyens du bord. Traiter de façon simple, traiter en essayant de jouer sur tout ce qui entre et sort du corps par des moyens comme le régime, l'exercice et les relations sexuelles, tout ceci qui évoque finalement des thèmes tout à fait contemporains. Autre exemple, Ambroise Paré, je cite mes préférés. Ambroise Paré, à la Renaissance, agit comme expert auprès des tribunaux, sur la base de son savoir médical. Et c'est ainsi qu'il a à répondre à des questions en tant qu'anatomiste, par exemple sur la virginité d'une accusée. Et il se lance dans un grand discours sur la variation de cette membrane si importante pour les sociétés et qui fait qu'il ne saurait se prononcer. Et en ce faisant, il sauve peut-être la vie de l'accusé. Quittons les rêveries et revenons au terrain où vous m'attendez, la science. Comment voir l'histoire de la médecine aujourd'hui ? Il est évident que la médecine semble prendre congé de l'histoire. Les étudiants se réfèrent à une série d'articles qui souvent ne remontent pas au-delà de 5 ans. Et au fond, comment concilier pour eux, pour les praticiens de la science, le ferme propos du progrès continuel des connaissances avec la reconnaissance du bout des lèvres d'une vérité qui serait au mieux partielle, embryonnaire, chez nos prédécesseurs ? L'histoire de la médecine m'est toujours apparue comme un bon compromis entre mes formations philosophiques et médicales. Mais quel statut épistémologique aujourd'hui pour l'histoire de la médecine ? L'expérience anthropologique montre à travers l'histoire qu'en fait, les médecins se sont toujours efforcés de faire servir ce qu'ils considéraient comme la vérité pour le bien de leurs malades, pour le diagnostic et si possible le traitement. Leur visée loyale d'une vérité au lit du malade explique que pour la profession, la société a levé un tabou ordinaire, celui de porter atteinte au corps humain, voire de lui infliger ce qui peut ressembler à des coups et blessures. Pourtant, la reconnaissance de ce privilège assez exorbitant par rapport au reste de la société s'est pendant longtemps associée non pas à une obligation de résultat, la guérison, mais à une obligation de moyens, c'est-à-dire l'obligation de mettre en œuvre tout l'ensemble des connaissances disponibles, actualisées, et de n'obtenir et sans aucune obligation de guérison. Il faut remarquer d'ailleurs à cet égard qu'on peut considérer qu'il n'y avait pas de progrès parce qu'au Moyen-Âge et à la Renaissance, il y avait fréquemment des contrats qui étaient reconnus entre le malade et son médecin avec obligation de guérison et sinon remboursement. Mais à partir du 19e siècle, il n'en est plus question. Précisément, quand la science s'émancipe. Le médecin est seulement tenu de mettre en application la vérité telle qu'il la tient pour telle en un temps donné. Et on peut ainsi faire une distinction subtile entre la vérité et la vérité provisoire, instable, qu'on appelle en anglais la truthfulness ou qu'on traduit par véracité en français. Mais les enseignants le savent bien. La vérité d'aujourd'hui, c'est la demi-vérité de demain, et parfois l'erreur de l'avenir. Dans les années 1980, l'université de Harvard, se considérant comme la meilleure du monde, a décidé de mettre en œuvre ce qu'elle a appelé « the new pathway ». L'idée était de faire de l'étudiant, du médecin de demain, un éternel étudiant, c'est-à-dire quelqu'un qui tout à la fois maîtrise dans l'instant l'algorithme des connaissances disponibles afin de répondre à l'urgence et à l'exigence de ses patients, mais aussi de réserver une porte ouverte pour pouvoir, à tout moment, bouleverser l'architecture de ses connaissances et s'adapter au progrès, ce que les Américains appelaient « a lifelong learner ». Un éternel étudiant, voilà un idéal bien sympathique, mais peut-être difficile. Comment se comporte l'histoire de la médecine dans ces conditions pour établir un récit véridique et vraisemblable de l'évolution des connaissances ? C'est le but de l'histoire de la médecine. Déjà, il n'est pas clair où se situe le début de cette science médicale. Visiblement, elle diffère suivant qu'on se trouve en Égypte, au Brésil, en Australie ou en Inde. Quant à la fin de cette histoire, mais j'en parlerai, je la garde précisément pour la fin. Je vois au moins deux manières d'identifier les événements importants dans l'histoire de la médecine et d'essayer d'établir la façon dont se sont enchaînées les connaissances. La première façon, c'est la plus facile, c'est celle qui est toujours utilisée dans les discours de célébration, c'est la recherche des précurseurs. On pointe un point dans le passé, on décrit ce qui s'y est passé, et par exemple, on prend, prenons le thymus. C'est un sujet que j'aime bien en histoire de l'immunologie. Alors on commence avec Galien, où Galien a décrit un petit organe derrière le sternum, à la face postérieure du sternum, au cours de ses dissections. Et puis à partir de là, le thymus, c'est notre rideau pour les non-initiés. Et à partir de là, on va sauter d'étape en étape à travers l'identification, bien sûr, des lymphocytes, leur rôle dans la tolérance et le rejet de la greffe, la surveillance des cancers, etc., la production de molécules qui peut-être feraient le lien entre le système immunitaire, le système endocrine et le système nerveux. Bref, une histoire qui continue. Mais est-ce un développement logique ? Très souvent, ces récits utilisant la notion de précurseur utilisent rituellement une phrase « Il fallut attendre 1800, il fallut attendre pour que... » Mais pourquoi attendre ? Cette phrase exaspérait Georges Canguilhem. Elle lui paraissait la caractéristique d'une démarche tout à fait illégitime. En fait, Georges Canguilhem détestait l'usage des précurseurs. Il pensait qu'ils n'avaient pas de sens. Il était, il faut dire, contemporain d'une génération d'historiens qui a beaucoup souligné l'originalité de chaque génération, l'importance de la spécificité des mentalités, c'est-à-dire le fait de décrire en un temps donné un ensemble de connaissances qui caractérise cette époque et qui, d'une certaine façon, n'est pas transmissible à la génération suivante. L'exemple de cette démarche, c'est le grand livre de Lucien Febvre qui s'appelle « L'incroyance au XVIe siècle », où Lucien Febvre veut démontrer que certaines questions n'ont pas de sens. Par exemple, poser la question de savoir si Rabelais était athée n'a pas de sens quand elle est rapportée à la Renaissance. Il faut donc restituer les mentalités du temps avec toute une constellation où seul un certain nombre de questions font sens, peuvent être posées et peuvent être résolues. Rupture. Ce qui importait à Canguilhem, c'était la notion de rupture. Et à l'époque, tous les étudiants voyaient des ruptures partout. Cette rupture, c'était important parce qu'elle rendait très difficile une vision comparative. C'est-à-dire que les connaissances successives n'étaient pas comparables. Il y avait des visions qui étaient incommensurables. Et cette démarche s'adaptait très bien à ce qui, à l'époque, faisait aussi l'objet de l'histoire des sciences, à savoir les révolutions scientifiques. Alors ce terme de révolution, devenu si banal aujourd'hui qu'il est employé aussi dans les discours de célébration, c'est un terme qui en fait a une origine tout à fait paisible. Révolution désignait le mouvement des astres autour du monde, mouvement extrêmement important puisque c'est de ce mouvement des astres au firmament que dépendent les existences des êtres qui vivent, des êtres qu'on appelle les êtres sublunaires. Et d'ailleurs, la médecine est longtemps astrologique. Elle l'a été et elle l'a été encore en Chine ou en Perse, par exemple, jusqu'au début du XXe siècle. C'est, à ma connaissance, James Blundell, qui est un chirurgien anglais, un obstétricien, qui a plaidé en 1822 pour que le terme de révolution passe à l'usage de la science médicale. Il s'est beaucoup étonné qu'on apprécie tellement des grands hommes comme Tamerlan ou Napoléon qui ont massacré des millions d'hommes. Alors que pour les médecins, c'est ce que plaide Blundell, il suffirait de quelques morts pour faire avancer prodigieusement les connaissances. D'autant plus qu'ils sont en fait animés essentiellement de bonnes intentions. Blundell expérimente en fait à cette époque la transfusion de sang qui a été tentée déjà avant lui au XVIIIe siècle par Richard Lower en Angleterre et par Jean-Baptiste Denis à Paris. Et cette transfusion a été bien sûr abandonnée en raison des accidents liés à l'ignorance des groupes sanguins. Mais Blondel, c'est ça qui est plus extraordinaire, a proclamé plusieurs succès en utilisant la transfusion dans son domaine pour les hémorragies de la délivrance, dont on sait à quel point elles étaient la cause principale de la mortalité des femmes en couche. À propos des révolutions, Michel Foucault a précisé, à propos de ce qu'il a appelé le gouvernement du vivant, la notion de régime de vérité. C'est une notion qui corrobore tout à fait l'idée de la légitimité de la démarche scientifique à un moment donné, le besoin de l'apprécier en fonction des critères d'une période donnée. La science évolue par reconfigurations successives, un peu à la manière d'un kaléidoscope, c'est-à-dire que chaque image qui apparaît est différente de la précédente et l'efface. Niels Hjerne, qui fut un personnage important pour moi, prix Nobel en 1983, pour ses travaux sur la théorie de la sélection des anticorps, aurait dû être le témoin le plus exact de l'histoire de l'immunologie. Depuis l'âge de 18 ans, il tenait un cahier où il inscrivait toutes ses lectures et il gardait une copie de toutes les lettres qu'il envoyait et recevait. C'est dire si pour son biographe, le Danois Söderqvist, ça a été relativement facile d'écrire une biographie. Et pourtant, malgré cette masse considérable de souvenirs, Niels m'a dit un jour, alors que je lui posais des questions pour savoir comment il avait envisagé l'existence des anticorps naturels des groupes sanguins, quand il avait commencé à s'y intéresser, avant même sa théorie de la sélection des anticorps, et il m'a dit « Écoutez, je n'arrive plus à me rappeler ce que je savais, ce que je croyais quand j'ai commencé à m'y intéresser. » Et on voit bien que c'est un peu décourageant et qu'il est assez difficile effectivement de retracer ce qui a été antérieurement à une révolution. Le découpage des révolutions, on connaît le grand auteur célèbre, c'est Thomas Kuhn avec The Structure of Scientific Revolutions, qui proposait une lecture de l'histoire des sciences scandée par des révolutions. À dire vrai, il y faisait surtout état des révolutions en physique. Évidemment, la révolution galiléenne, la relativité d'Einstein, et la médecine ne jouait pas un très grand rôle. Mais en matière de médecine, nous savons tous que la révolution, la notion de révolution a été appliquée à l'événement marquant de la fin du 19e siècle, et là je pense que tout le monde comprend, c'est l'identification des microbes et la théorie infectieuse de la maladie. Et pourtant, de quoi s'agissait-il par rapport à ce qui est venu avant? François Delaporte a bien expliqué que cette théorie infectieuse des maladies n'était pas le triomphe d'une idée vraie, la contagion, contre une idée fausse, l'infection. C'est-à-dire infection réduite à un foyer qui s'explique à la fois par les miasmes atmosphériques, mais aussi le manque d'hygiène, la saleté des maisons, l'entassement des gens, etc. En fait, il y a une recomposition des idées qui fait qu'au fond, partisans de l'infection comme partisans de la contagion avaient raison. Simplement, ils détenaient une petite partie de quelque chose qui s'est restructuré avec la révolution pasteurienne. La révolution pasteurienne, qui n'est pas du cas Pasteur, ça a consisté à mettre au fond le microbe au centre de la maladie, à comprendre tout à travers le microbe. Et ça, Bruno Latour l'a très très bien dit dans le livre qu'il a intitulé « Les microbes ». On ne peut plus concevoir, après les années 1880, la maladie de la même façon, que ce soit dans l'individu ou dans la société, qu'en suivant le trajet du fameux microbe. Mais cette révolution va-t-elle en entraîner une autre? Où est-ce que nous assistons à la fin de l'histoire? C'est là une question sérieuse. Le terme de révolution est en effet à prendre au pied de la lettre, avec sa brutalité. C'est Émile Duclos, le successeur de Pasteur à l'Institut Pasteur, qui n'était pas médecin, qui était chimiste, et qui disait « La médecine est dans un tel état que si je le pouvais, je donnerais un coup de pied dans l'édifice. » La dimension prophétique ne manque d'ailleurs pas. pasteur, pourtant prudent, s'est avancé jusqu'à prédire la disparition des grands fléaux comme la peste, la rage et la tuberculose. Le monument édifié à Pasteur, place de Fontenoy, il y a la statue du grand homme et au pied, il y a un monument où on voit, mais oui, la mort qui laisse tomber sa faux. Remarquons bien que la médecine, dans son discours sur elle-même et la production de sa vérité, a emprunté le terme de révolution, non pas à la science physique ou chimique, mais aux sciences humaines et sociales que cette maison incarne. Mais les sciences humaines et sociales vont encore aller plus loin en avançant dans la science, en investissant dans leur désir d'ouvrir ce qu'elles appellent la boîte noire de la science, le cœur de la science, la notion même de fait. Le fait scientifique. L'université canadienne de McMaster, en Ontario, s'est rendue célèbre par la proposition d'un enseignement de la médecine fondé en raison sur des faits. La fameuse Evidence-Based Medicine, dite encore maintenant EBM. Une partie de son succès, qui ne fut pas tout à fait immédiat, mais qui dure, en particulier en France, vient peut-être d'un faux sens de la traduction. On a au début, science basée sur l'évidence. En fait, je pense que cette traduction a plu en France, parce qu'évidence renvoie à une démarche tout à fait cartésienne qui consiste à ne progresser d'un raisonnement à un autre que suivant des critères de clarté, de simplicité et d'évidence, et de ne jamais progresser à un maillon supérieur sans s'être assuré du pas antérieur. Les faits. Alors, la science médicale, ce serait des faits, à condition qu'ils soient bien sûr avérés. Thomas Huxley, 1870, a dit « La grande tragédie de la science, c'est le massacre d'une hypothèse par le fait hideux. » Bien des thésards, à ma connaissance, ont suspendu cet aphorisme au seuil de leur thèse, qui fut pour eux un douloureux enfantement, et parfois le rejet à contre-cœur d'une belle hypothèse. Et c'est là, à propos des faits, que j'ai fait la rencontre de Ludwig Fleck. Ludwig Fleck, c'est un médecin polonais qui vivait dans la ville de Lwów, en Pologne, aujourd'hui Lviv, en Ukraine. Il a écrit en 1935 un livre en allemand intitulé « La genèse d'un fait scientifique ». Il y soutenait l'idée qu'un fait scientifique n'est jamais qu'un conglomérat d'observations, et non pas un fait unique et saillant. Et ce conglomérat d'observations ne peut être enregistré comme tel que lorsqu'il rencontre l'attente et l'adhésion d'une communauté donnée unifiée par ce que Fleck appelait un « denk collectif », un style de pensée collectif. Alors on comprend bien pourquoi le courant des science studies, qui a lui aussi voulu ouvrir la boîte noire de la science, a accueilli l'ouvrage de Fleck quand il en a eu connaissance. Fleck avait choisi un exemple tiré de sa pratique de microbiologiste, le test décrit en France sous le nom de Bordé-Wassermann, BV pour les vieux qui sont ici, ou sérologie de la syphilis. Le tréponème de la syphilis a été décrit par Chaudin en 1905 et la réaction de détection des anticorps, la sérologie, par August von Wassermann en 1906. Il y avait un dispositif ingénieux de fixation du complément, dont je vous épargne le détail, et qui, en couplant deux réactions spécifiques, permettait de faire apparaître, de rendre visible, l'absence ou la présence de l'anticorps spécifique du tréponème, par une réaction qui se passait ou ne se passait pas d'hémolyse, rendant le tube tout rouge. Ce qui avait frappé Fleck, c'est que cette sérologie qui a donc commencé à être appliquée en 1906, a survécu presque jusqu'à nos jours, en tout cas jusqu'à l'époque de Fleck, alors que tous les éléments qui concouraient à sa réalisation avaient été transformés et que sa spécificité avait de quoi être sérieusement remise en question. Mais telle était l'appétence de la profession médicale pour la caractérisation des maladies vénériennes, le tri des syphilitiques contre non-syphilitiques, que le fait de la sérologie, de cette sérologie, s'est maintenu au prix d'une acrobatie qui peut parfois ressembler à une escroquerie intellectuelle. C'est Thomas Kuhn, toujours l'auteur de la structure des révolutions scientifiques, qui supervisa et lança la première traduction de Fleck en anglais. Mais quand je l'interrogeais là encore sur sa lecture de Fleck, je fus très déçu. Il m'avoua n'avoir rien compris à cette histoire, vous savez, de réaction de fixation du complément. « Je n'ai jamais rien compris », me dit-il. En fait, il avait trouvé dans Fleck ce qu'il attendait et ce qu'il cherchait. Comme un peu le dit Dieu à Saint Jean de la Croix, « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé ». Les révolutions scientifiques se succèdent et finalement elles tendent à minimiser fortement l'importance de l'histoire. Elle tend plutôt même à être parfois exorcisée par les changements de vocabulaire. Par exemple, l'épidémie d'Ebola. Quand on regarde bien l'épidémie d'Ebola, avec son épidémie de peur, avec son épidémie de rumeur et la subversion de l'ordre social, elle ressemble à toutes les épidémies. Et si on lit la peste d'Athènes de Thucydide, on trouve mutatis mutandis bien l'atmosphère de l'épidémie d'Ebola, entraînant panique et violence. Aussi, les gestionnaires de l'épidémie se sont préoccupés de changer le vocabulaire. Par exemple, on ne parle plus de quarantaine, terme ONI. On parle d'isolement communautaire, au domicile, sous le regard du groupe. Et la preparedness, l'idéal de modernité, l'anticipation de l'épidémie, se veut précisément annulation du fracas de l'histoire. Bref, presque une annulation du passé. La dernière révolution scientifique de la médecine représenterait donc ainsi la fin de l'histoire. J'ai toujours été surprise qu'un philosophe médecin comme Canguilhem, aussi fin et aussi attentif, ait en quelque sorte entériné que nous assistions, en matière de médecine, à une fin de l'histoire. Il a associé l'avènement de la théorie infectieuse des maladies, qui pour lui était évidemment la révolution pasteurienne, il a considéré que c'était, et je le cite, « la fin des idéologies ». On sait pourtant que pour cette génération, l'idéologie était le déguisement de la vérité. Pourtant, la révolution pasteurienne est en ce moment sérieusement réaménagée. Elle avait fourni un programme d'action qui était en même temps une jauge de sa valeur de vérité. L'éradication des maladies, l'éradication des maladies infectieuses par phases successives. Or, le programme d'éradication, en dehors bien sûr de celle de la variole en 1978, a sérieusement marqué le pas et a dû constamment revoir l'échéancier proposé pour polio, tuberculose, lèpre, trachome, etc. Les microbes n'étaient donc pas seulement des cellules passives sur lesquelles on pouvait essayer un armement, mais des êtres vivants qui suivaient leur propre stratégie. Le microcosme humain se retrouvait précipité dans le macrocosme, au fond, une régression vers l'institution de la médecine antique. Après l'explosion de la résistance des agents pathogènes aux antibiotiques, le monde des microbes a donc été revisité avec l'exploration du contenu en microbes du corps humain. Leur nombre, paraît-il, excéderait celui des cellules du corps. Avec l'étude du microbiote, on voit que les microbes vivent dans nos organes et ne sont pas nécessairement pathogènes, mais au contraire parfois très utiles pour un certain nombre de voies métaboliques par leurs produits. Si ce n'est pas de la fin de l'histoire, est-ce alors un éternel retour des mêmes questions qui sont simplement décalées d'un cran par le raffinement des techniques avec lesquelles on essaie de les résoudre le long d'une spirale. Se rappelant que sa vérité est avant tout la vérité d'une amélioration apportée à la souffrance humaine, la médecine a choisi aujourd'hui d'encadrer les recherches actuelles par ce qu'elle considère comme un nouveau paradigme. C'est celui de la santé globale. La santé globale, ça globalise tout. ça globalise. Médecine humaine et vétérinaire, bien sûr. La médecine de l'environnement, un autre être vivant qu'on avait tendance à oublier, mais qui a maintenant des droits. Protocole de Nagoya. Santé globale, c'est un vaste programme reproposant comme vérité scientifique ce qui est bon pour le monde vivant, dont au premier chef fait partie l'humanité unie et unique. Le paradoxe est dans la revendication simultanée de la médecine personnalisée, comme par hasard son antithèse. Certes, la médecine personnalisée peut rappeler l'affirmation de la singularité biologique de l'individu, bien connue et décrite à propos de la transfusion, de la greffe. Mais là encore, elle renoue avec l'intuition de la médecine ancienne, par exemple, que ce soit dans sa version gréco-latine ou dans sa version arabo-persane. Autrement dit, nous retournons à une expérience de la médecine qui rappelle ce que j'ai dit en débutant sur la question anthropologique de la vérité médicale. Je pense que tous les médecins, à partir d'un certain âge et d'une certaine expérience, se rappellent comment ils ont assisté au passage rapide du remède dernier-né au rang de panacée, avant de se faire plus discret, voire de rentrer en grâce au profit d'une nouvelle indication, comme par exemple, on le voit actuellement, pour la thalidomide. L'histoire de la médecine me paraît être un exercice à la fois salutaire et passionnant lorsqu'elle revient sur le défilé des modèles du corps humain pour découvrir que ces modèles historiques passés ont finalement tous gardé une certaine validité. Le modèle humoral n'a pas disparu. On parle encore des humeurs et il anime la quête actuelle d'un régime de vie par la science citoyenne. Le modèle mécaniste non plus, ni le modèle chimique, ni le modèle électrique, ni le modèle neuronal qui a fait le best-seller de Jean-Pierre Changeux. Le modèle immunologique est bien sûr toujours présent. Je l'avais appelé le dernier langage de la médecine, moi aussi peut-être victime de l'illusion de la dernière révolution. Cette tension entre le paradigme de la santé globale et de la médecine personnalisée est tout à fait palpable dans la crise actuelle de la vaccination. Mes amis penseront que je ne pourrais pas parler de médecine sans parler un jour de vaccination. La vaccination, cette crise, elle est gérée actuellement par les politiques dans l'attente de la future loi de santé publique. Revenant sur ce que j'avais appelé jadis l'aventure de la vaccination, un immunologiste trop tôt disparu, Jean-Pierre Revillard, avait posé la question d'une écriture en contrepoint. Peut-on imaginer un monde qui aurait vécu sans vaccin ? Seul le roman, pour le moment, permet de répondre avec quelques éléments scientifiques à cette question. Comment conclure maintenant sur le statut épistémologique de l'histoire de la médecine ? Je pense que celle-ci hante toujours l'esprit des médecins, même si elle n'occupe plus une grande place dans leur formation. Comment la médecine pourrait-elle faire taire son histoire ? Elle est elle-même histoire, remaniement d'idées, reconstruction de faits, tapisserie de Pénélope qui ne connaîtra jamais le retour d'Ulysse. L'histoire est consubstantielle à l'exercice de la médecine et à sa recherche de la vérité, car, comme le disait Georges Canguilhem, une phrase qui était passée en proverbe dans la famille, en médecine, on expérimente, c'est-à-dire on ne soigne qu'en tremblant. Jacqueline Dufine, une collègue canadienne que j'aurais aimé voir ici ce soir, avait jadis posé la question dans Clio in Medicine. Est-ce que l'histoire de la médecine permet une meilleure pratique ? Autrement dit, est-elle maîtresse de vérité ? Quelle que soit la réponse, la médecine ne saurait se dispenser de sa responsabilité envers la vérité, même si cette vérité se décline au pluriel, comme j'ai tenté de vous le montrer. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette conférence tout à fait remarquable. Alors Anne-Marie, je vais devoir me lever maintenant, et toi aussi. Donc, je te remets au nom de la FMSH ce prix Charles et Monique Morazé. C'est avec, pour nous tous, pour moi et bien sûr en particulier, un plaisir et je dirais un honneur. Alors je te remets une petite enveloppe par la même occasion, mais c'est une enveloppe, tu verras, c'est pas négligeable. Voilà.
Merci.